Dieu dans l'évangile de Luc, à partir du chapitre 7, nous allons lire les 10 premiers versets. Luc chapitre 7, nous lisons les 10 premiers versets. Donc, durant le temps de louange, notre frère nous a lu ce texte d'Hébreux chapitre 11, où il est parlé des témoins de la foi, et notamment de la foi d'Abraham, qui Dieu a dit de quitter son pays, sa patrie, et d'aller là où il lui demandait d'aller. Et Abraham est parti, et s'il est parti, c'est parce qu'il a mis sa foi dans la parole de Dieu, et qui donc lui a demandé de le faire. Et c'est là aussi le thème du message que j'aimerais vous partager ce matin, que comme Abraham, justement, c'est de croire en l'autorité de la parole de Jésus. Croire en l'autorité de la parole de Jésus. Nous avons parlé d'Abraham, et dans ce texte, dans l'Épître aux Hébreux, il y a plusieurs autres exemples. Et dans le texte de Luc chapitre 7 que j'aimerais lire avec vous, Luc nous raconte la rencontre d'un homme aussi qui a mis sa foi en la parole de Jésus-Christ. Il croyait en l'autorité de la parole de Jésus. Et donc cet homme, c'est un centenier qui avait un serviteur qui était malade et il savait que Jésus pouvait le guérir. Alors, j'aimerais lire avec vous ce passage dans Luc, chapitre 7, les 10 premiers versets. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné donc de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un « va » et il va, à l'autre « viens » et il vient, et à mon serviteur fait cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Et de retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Et j'aimerais lire un autre passage, c'est le texte parallèle, dans Matthieu, chapitre 8. Matthieu, chapitre 8, les versets 5 à 13. C'est le texte qui est parallèle donc, à notre texte de Luc. Donc Matthieu, lui, raconte cette même histoire. Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va et il va, à l'autre vient et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. Alors, ces deux textes que nous avons lus, qui racontent donc la même histoire, et comme moi, vous avez peut-être remarqué qu'il y a quelques nuances entre ce qui est rapporté par Matthieu et Luc. Donc le texte nous parle d'un centenier, c'est un officier romain qui a la responsabilité, l'autorité sur une centaine de soldats. Et ce centenier a un serviteur malade auquel le texte nous dit qu'il est très attaché. Il avait déjà entendu parler de Jésus et de ses miracles, comme il est dit au verset 2 de Luc. Mais à Capernaum, le Seigneur Jésus-Christ avait, par exemple, guéri la belle-mère de Pierre. Il avait délivré des hommes qui étaient possédés par des esprits impurs. Il avait guéri plusieurs personnes atteintes de diverses maladies. Donc, la réputation de Jésus était déjà faite dans cette ville-là. Et lorsque Jésus revient et descend de la montagne, après avoir donné donc ses sermons sur la montagne, donc il revient et puis il va donc à Capernaum. Et lorsque ce centenier apprend que Jésus est là dans la ville, il lui demande de venir guérir son serviteur. Et dans un deuxième temps, il va, donc dans un premier temps, il va envoyer les anciens des Juifs, nous dit Luc, pour dire à Jésus de venir guérir son serviteur. Et dans un deuxième temps, il va envoyer des amis pour dire à Jésus que ce n'était pas la peine de venir chez lui, qu'il n'était pas digne qu'il rentre dans sa maison et que Jésus n'avait qu'à dire un mot pour que son serviteur soit guéri. Il y a donc des différences entre ces deux histoires, que c'est la même histoire, mais c'est deux manières différentes que les auteurs l'ont raconté. À la différence de Luc, Matthieu nous dit que c'est le centenier lui-même qui aborde le Seigneur pour lui demander de guérir son serviteur. Tandis que dans Luc, le centenier dit la même chose à Jésus, mais par l'intermédiaire des anciens des Juifs, mais aussi de ses amis. Matthieu ne parle pas de ces personnes-là. Alors, est-ce qu'il y a une contradiction dans ces deux récits ? Parfois, nous entendons les détracteurs de la parole de Dieu, ceux qui veulent prouver que la Bible n'est pas fiable, la Bible, il ne faut pas mettre sa confiance en elle, parce que, et puis ils vont chercher des petits textes comme ça pour dire, ah, vous voyez, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des contradictions ? Est-ce qu'il y a une contradiction dans cela ? Est-ce que ces différences apparentes, on ne peut pas le nier, et c'est pour cela que j'ai voulu qu'on lise ces deux passages aussi, est-ce que ça remet en cause la véracité de la parole ? Non. Alors, bien sûr, il faut chercher, Seigneur, pourquoi il y a ces différences ? Qu'est-ce que l'un et l'autre a voulu dire ? Alors, dans les commentaires, il est souligné que le récit de Matthieu est plus simple, sans les détails. Et Matthieu, il aime aller, je dirais, droit au but. Il ne rentre pas toujours dans les détails, contrairement à Luc, qui était aussi un médecin, qui aimait bien les choses. Il dit qu'il a fait des recherches exactes, Luc, et il aime donner les détails. Tandis que Matthieu, il va de manière beaucoup plus directe. Matthieu exprime, au fait, la pensée du centenier qui avait envoyé des messagers et qui ont exécuté ses ordres à la lettre, comme si le centenier était là en personne. Et dans un commentaire, je lisais que il dit que celui qui possède l'autorité n'a pas besoin d'être présent pour accomplir une tâche. Les ordres peuvent s'exécuter par d'autres, même de loin. Et ça, on le voit aussi même dans la vie, dans la société, au travail, lorsqu'il y a un supérieur hiérarchique qui donne un ordre et les subalternes doivent exécuter cet ordre. Et ce qui est fait, et s'il y a un problème, qui sera le responsable? Ça ne sera pas le subalterne, ça sera celui qui a donné l'ordre. Parce qu'il y a l'autorité de la parole. Dans l'administration, parfois, il y a des lettres qui sont envoyées. Par exemple, si c'est dans l'éducation nationale, il y a des lettres qui sont envoyées. Et c'est le recteur ou la rectrice qui s'est signé. Mais ce n'est pas le recteur ou la rectrice qui a écrit la lettre, c'est les personnes qui sont en dessous. Mais voilà. Et dernièrement, il y a eu quelque chose qu'on a reproché à telle académie. Ils ont envoyé des lettres aux parents sans aucune compassion, rien. C'était une lettre type, mais c'était quand même le nom du responsable hiérarchique qu'il avait donné. Donc, pour parler de l'autorité de la parole. Et ces deux textes, en fait, mettent en lumière cela. Et Matthieu souligne que Jésus a l'autorité, et c'est ce que le centenier montre, mais ce centenier-là aussi dit qu'il était investi d'autorité. Il avait des gens au-dessus de lui, mais lui-même, il avait des personnes qui étaient sous ses ordres. Et il dit, allons va, et il va, etc. Et donc, lorsqu'il dit à ces hommes, à ces anciens des Juifs, tu vas dire à Jésus de venir. Après, il va dire à ses amis, tu vas dire à Jésus, c'est pas la peine de venir. C'est comme si c'est lui-même qui était là présentement pour dire à Jésus ceci ou cela. Donc, les deux auteurs, Luc et Matthieu, montrent au fait cette vérité-là que nous voulons souligner ce matin, l'autorité de la parole. Et ce centenier qui avait cette autorité était investi de cette autorité. Lorsqu'il dit la chose se fait. Et il croyait aussi que Jésus lui-même était investi d'une autorité supérieure, supérieure à lui. Et qu'il suffisait que Jésus dise une chose pour que son serviteur soit guéri. Et ce centenier, c'est parce qu'il croyait en l'autorité de Jésus qu'il a dit, voilà, moi, c'est pas la peine que Jésus vienne chez moi parce que je ne suis pas digne de le recevoir. Il croyait donc que Jésus avait donc l'autorité suffisante, nécessaire, et que cette autorité venait de Dieu et qu'il pouvait dire pour que la chose arrive. Alors, ceci étant dit, nous allons voir ce texte de Luc chapitre 7. Je vais jongler entre les deux. Pour déjà parler de ce centenier, il est caractérisé par. Et le texte dit que Jésus était étonné, même dit que le Seigneur l'admira, parce que cet homme est remarquable. Déjà, ce qui le caractérise, c'est sa crainte de Dieu et sa générosité. Il était peut-être ce qu'on appelle un craignant Dieu, un peu comme Corneille. Ces personnes qui ne sont pas ces personnes païennes, mais qui avaient la crainte de Dieu. Et le texte nous montre, nous dit que il avait un profond respect pour la foi juive. Les anciens des Juifs ont dit de lui qu'il aime la nation juive et que c'est lui qui a bâti la synagogue. Pour dire que c'est lui, il a donné pour la construction de cette synagogue. Et donc, c'était un homme généreux aussi. Il a participé financièrement à sa construction de cette synagogue. Il avait entendu parler de Jésus. Il avait entendu parler de ses miracles. Et sans même l'avoir rencontré physiquement, il croyait que Jésus était revêtu d'une autorité, d'une grande autorité, au point qu'il utilise le titre Seigneur pour s'adresser à lui. Voilà, il dit Seigneur, donc pour dire aussi maître, c'est un terme qui est utilisé dans diverses situations, mais il reconnaissait donc son autorité, le fait qu'il l'appelle le Seigneur. Ce centenier se caractérise aussi par son humilité. Il dit qu'il n'est pas digne que Jésus entre chez lui, et ni même il n'est pas digne d'aller en personne à la rencontre du Seigneur Jésus. Il fait preuve d'humilité, il est un homme qui aime aussi son prochain, il aimait son serviteur. Le texte nous dit qu'il était très attaché donc à ce serviteur, alors que c'était un esclave. Et dans les commentaires, il est souligné que c'était inhabituel que maître ait une telle affection pour ses serviteurs, son serviteur. Et donc, il fait aussi preuve de compassion à l'égard de ce serviteur. On ne sait pas quel est son nom, on ne sait rien de lui, on sait juste qu'il était malade et qu'il était sur le point de mourir. Et ce maître-là, ce centenier, aimait ce serviteur et voyait qu'il allait le perdre et il voyait que c'était Jésus qui pouvait le délivrer. Et puis ce qui le caractérise aussi, c'est sa foi en Jésus. Il croyait que Jésus était tout-puissant pour guérir son serviteur. Il croyait même que Jésus n'avait pas besoin de venir sur place pour toucher son serviteur pour le guérir. Voilà. Jésus n'avait pas besoin de venir et le toucher, quoi que ce soit. Jésus n'avait qu'à dire un mot. Donc il croyait qu'une parole serait suffisante. Et c'est ce qu'il dit, mais dis un mot. Et mon serviteur sera guéri. Donc, le Seigneur est là avec cet homme, entend parler donc de cet homme, et le texte nous montre toutes ces choses. Et le Seigneur, lui, le texte nous montre aussi qu'il est, il aime bien sûr aussi son prochain et il manifeste cet amour par sa disponibilité. Lorsqu'il descend de Capernaum, il a donc fait, lorsqu'il descend de la montagne, il arrive à Capernaum. Il a fait tous ses discours. Il arrive peut-être qu'il voulait aller se reposer, mais non. On vient, on l'arrête. On vient lui dire, viens chez un tel. Son serviteur est malade. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bien. Il a besoin de toi. Qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur est disponible pour ce serviteur, pour ce centenier. Et donc, il va aussi avec ces personnes. Le texte nous dit que Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Et dans Matthieu, il dit, j'irai et je le guérirai. Il est toujours disponible pour les autres. Malgré les situations qu'il pourrait rencontrer. L'autre chose que j'aimerais souligner, c'est que le Seigneur Jésus parle là de son étonnement ou de son admiration à l'égard du centenier, parce qu'après avoir entendu les paroles donc de celui-ci, le Seigneur donc il est dit dans au verset 9 qu'il admira le centenier. Matthieu dit qu'il fut dans l'étonnement. Il est étonné de voir qu'un homme païen ait une aussi grande foi. Il est étonné de voir qu'un homme païen ait une aussi grande foi, alors que ceux de son peuple sont dans l'incrédulité, ceux qui attendaient la venue du Messie, qui ont vu aussi, qui ont entendu, mais eux, ils ne voulaient pas croire. Donc Jésus voit ce païen et il souligne ce fait que même en Israël, il n'a pas vu une aussi grande foi. Il est donc un peu dans l'admiration voyant cet homme, mais il est aussi déçu à l'égard de son peuple. il est déçu. Et cela doit aussi nous faire réfléchir. Et par ces paroles, le Seigneur nous encourage à avoir foi en lui, comme cet homme, comme ce centenier qui croyait en la puissance de sa parole. Il était dans l'étonnement voyant ce païen qui avait une aussi grande foi en lui. Alors que ceux qui avaient la loi, qui avaient les prophètes, qui connaissaient les choses de Dieu, qui attendaient ce Messie, et là il est présent et ces gens étaient dans l'incrédulité. Et parfois on est un peu comme ça. Parfois des gens inconvertis, parfois manifestent plus de foi que nous-mêmes chrétiens connaissons la parole. Et une façon de montrer que nous croyons aussi en l'autorité de la puissance de la parole de notre Seigneur, j'aimerais juste voir un point aujourd'hui, c'est que c'est en intercédant pour ceux qui ont besoin de lui. Intercéder pour ceux qui ont besoin de Jésus. Et donc lorsque notre sœur nous a dit, m'a demandé est-ce qu'on avait la réunion de prière, bien sûr qu'on a la réunion de prière, parce que nous avons besoin d'intercéder pour ceux qui ont besoin du Seigneur. Donc on ne peut pas annuler une réunion de prière parce que ceux qui ont besoin autour de nous ont besoin de nos prières. Et c'est ce centenier, c'est ce qu'il a fait, il a vu que son serviteur avait besoin de Jésus. Son serviteur avait besoin d'être guéri et que c'est Jésus qui pouvait le faire. Et donc, il a intercédé auprès du Seigneur pour que le Seigneur puisse lui apporter la guérison. Ce serviteur, donc, il était malade. Il était sur le point de mourir. Il était couché à la maison, nous dit le texte dans Matthieu chapitre 8, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Il avait donc besoin d'être guéri. Et le centenier savait que seul Jésus pouvait le sauver. Et ce serviteur qui était donc entre la vie et la mort ne pouvait rien faire. Il dépendait entièrement de son maître, le centenier, et de la foi de cet homme. Ce serviteur dépendait de son maître et de la foi de son maître. Et peut-être que ce serviteur ne savait rien de Jésus. Il n'avait peut-être jamais entendu parler de lui, mais il était dans une situation catastrophique. Il était sur le point de mourir. Le centenier croyait que seul Jésus pouvait guérir cet homme et l'empêcher de mourir. Le centenier savait que son serviteur avait besoin de Jésus. Et puisqu'il aime son serviteur, il va faire la démarche d'aller vers Jésus par le biais des anciens des Juifs, par le biais de ses amis, pour lui demander de venir guérir son serviteur. Et parce qu'il a considéré donc son indignité, il a vu en combien il était indigne d'aller lui-même auprès de Jésus. Il demande que Jésus dise un mot et son serviteur sera guéri. Quelle grande foi! Et le Seigneur Jésus a répondu. Lorsque le Seigneur a entendu cette demande, le Seigneur s'est mis en marche pour aller chez lui. Selon Matthieu chapitre 8, verset 7, le Seigneur dit « J'irai et je le guérirai ». La volonté du Seigneur était donc de guérir ce serviteur. Mais pour le faire, il fallait que le centenier fasse cette démarche de venir auprès de Jésus pour intercéder pour celui qui avait besoin de lui. Il y a la volonté de Dieu, mais il y a aussi la foi de l'homme. Le Seigneur dit, j'irai et je le guérirai, mais il fallait que ce centenier manifeste sa foi. Et le Seigneur souligne son admiration par rapport à cet homme. Oui, le Seigneur, il est tout puissant pour guérir ceux qui sont malades de toutes sortes de maladies. Mais il agit toujours selon sa volonté et de manière souveraine. Il attend de nous que nous manifestions notre foi en lui, comme l'a fait ce centenier, en intercédant pour ceux qui ont besoin de lui. Je pense que toutes et tous, nous avons des gens autour de nous qui avons besoin de Jésus. Donc, tous, nous avons besoin d'intercéder. Que la personne malade ait foi ou pas en Dieu, qu'elle croit ou pas en Jésus, en fait, c'est même pas notre problème. Ce que nous devons faire, c'est, puisque nous aimons cette personne, c'est intercéder pour elle. Parce qu'elle a besoin de Jésus. Et si nous intercédons pour cette personne qui a besoin de Jésus, c'est parce que nous croyons en l'autorité de la puissance de la parole de Jésus-Christ. Il est là dans les cieux, il peut dire un mot et la chose se fait. Donc nous sommes là encouragés à intercéder pour ces personnes que nous aimons, afin qu'elles trouvent la guérison physique et ou spirituelle selon la volonté de Dieu. Alors, il y a plusieurs cas de figure que j'aimerais voir avec vous. Ça peut être venir à Jésus lorsqu'on connaît ce besoin, parce qu'on croit que c'est lui qui peut nous apporter la guérison dont on a besoin. La personne malade, par exemple physiquement, peut venir à Jésus et lui exprimer sa foi. On a des exemples où c'est la personne même malade qui vient vers Jésus-Christ et qui manifeste sa foi en Jésus, comme cette femme qui avait cette perte de sang depuis 12 ans et elle a dépensé tout son argent auprès des médecins et de tout ce qu'on peut imaginer. Et une fois, elle voit Jésus qui passe, et elle lui dit, mais si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Et cette femme, elle a bravé toutes sortes d'obstacles, et elle est venue, et elle a touché le bord du vêtement du Seigneur, et elle a été guérie. Et le Seigneur a dit, qui m'a touché? On lui dit, mais il y a tellement de monde autour de toi, mais comment tu peux dire qui m'a touché? Jésus a senti une puissance sortir de lui. Et donc, cette femme qui était malade, elle a mis sa foi en action et elle a été guérie. Tout comme ces lépreux qui sont venus vers Jésus et qui ont demandé, voilà, qu'il puisse le rendre pur. Et le Seigneur dit, qu'il soit fait selon ta foi. Mais, comme dans notre texte là, là on voit que c'est le centenier qui a foi en Jésus-Christ. Le serviteur qui est malade, on ne sait pas quelle est sa foi, on ne sait pas si il connaît Jésus, mais c'est là, et c'est là que c'est encourageant pour nous qui avons foi en Jésus-Christ, à nous de venir et de porter auprès de Jésus celui ou celle qui est malade, que ce soit physique, spirituel, et de croire que Jésus est tout puissant pour guérir. Un peu comme ces quatre hommes qui ont porté cet homme paralytique au pied de Jésus, ils arrivent et la maison était remplie, et donc ils sont passés par le toit de la maison et ils ont fait descendre cet homme paralytique là au pied de Jésus. Et le Seigneur, voyant leur foi, dit à cet homme, tes péchés sont pardonnés. Alors il y a toute une discussion, mais il y a seulement Dieu qui peut pardonner les péchés. Et là, Jésus-Christ dit, lève-toi et marche. Et c'est, on ne sait rien de ce paralytique, mais on voit la foi de ces quatre hommes qui ont porté cet homme malade aux pieds de Jésus. Tout comme cette femme cananéenne, dont la fille était possédée par des démons, elle est venue aux pieds de Jésus pour intercéder pour sa fille, parce qu'elle croyait que Jésus pouvait délivrer son enfant. Son enfant n'était pas là avec elle. C'est elle qui a fait la démarche d'aller auprès de Jésus. Et donc, il y a une discussion là, et le Seigneur lui dit, voilà, ta foi va qu'il soit fait selon ta foi. Et la fille a été guérie. Et c'est ce qu'a fait aussi ce centenier, un peu comme cette femme cananéenne. Il, par le biais de ces personnes, il est venu à Jésus-Christ pour demander à Jésus d'intervenir. Dans Jacques, on peut prendre ce texte. Donc, chacun peut intercéder, peut venir à Jésus et prier pour celui et, ou celle qui est malade, qui a des problèmes de santé. Et Jacques nous dit que voilà, il y a certaines personnes, la maladie peut avoir d'autres sources, et qu'il faut faire appel aux anciens. Je peux lire à partir de Jacques chapitre 5, à partir du verset 13. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Vous voyez, là c'est un cas particulier. Peut-être qu'il y avait la maladie, était la conséquence peut-être de péché, et qu'il fallait confesser. Et donc, là, il demande de faire appel aux anciens de l'Église. Donc, ce texte nous encourage à nous tous de croire en la puissance de la parole du Seigneur et dire, voilà, Seigneur, je crois que tu peux guérir cet enfant, je crois que tu peux délivrer cette personne, et donc j'intercède parce que c'est moi, j'ai foi en toi. Alors, le résultat de l'intercession n'est pas toujours comme on voudrait. Cela peut dépendre de la foi du croyant, parce que si on fait preuve d'incrédulité, il ne faut pas penser que nous aurons quelque chose. C'est, par exemple, Jacques chapitre 1, versets 5 à 8, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Voilà, si on demande, il faut avoir foi, croire que Dieu peut le faire. Donc, c'est le centenier, il montre sa foi dans le Seigneur. Il dit, va, et le Seigneur lui dit, va et qu'il te soit fait selon ta foi, lorsqu'il disait ça à cette femme. Et alors même, le serviteur donc, fut guéri lorsque, dans Matthieu chapitre 8, verset 13. Donc, le chrétien ne doit pas douter de la toute-puissance de Dieu, et qu'à cause de son incrédulité, Dieu peut ne pas lui donner ce qu'il demande. Mais aussi, la réponse à l'intercession peut dépendre de la motivation de celui qui demande. Toujours dans Jacques chapitre 4, verset 3, il dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Donc il est important de se poser la question quelle est ma motivation? Et parfois, Dieu, le miracle, c'est pour qu'on reconnaisse la puissance de Dieu et qu'on mette notre foi en lui. Et Jean nous dit que malgré tous les miracles, il y a des gens qui n'ont pas mis leur foi en Jésus-Christ, malgré les miracles qu'il a pu faire. Et donc, la motivation, si c'est juste être guéri et c'est tout, alors est-ce que c'est nécessaire? Voilà, donc, quelle est la motivation? Alors, si Dieu nous manifeste sa puissance en nous délivrant, c'est après que, si c'est pour après faire preuve d'orgueil et continuer à vivre sa vie sans lui, et puis vivre dans le péché, là, il n'y a pas d'intérêt. Si c'est pour satisfaire nos passions, ce n'est pas la peine. Mais la réponse à l'intercession dépend surtout de la volonté de Dieu. On peut avoir une grande foi en Dieu et ne pas obtenir ce que nous lui avons demandé. Il y a certains qui prêchent, voilà, oui, tu pries, tu seras guéri, et puis si tu n'es pas guéri, c'est parce que tu n'as pas de foi ou qu'il te manque de la foi. Mais ce n'est pas ce que dit le texte. Ce n'est pas ce que Dieu dit. On peut avoir une grande foi en Dieu et que Dieu ne réponde pas favorablement à ce que nous lui demandons. Nous avons plusieurs exemples. L'apôtre Paul avait une grande foi en Dieu et lorsqu'il avait cette écharde dans la chair, il a prié le Seigneur 3 fois de l'éloigner de lui. Et le Seigneur ne l'a pas répondu favorablement à sa demande. Le Seigneur lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Pour Dieu, et l'apôtre Paul dit même que c'est pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. Donc, s'il n'avait pas cette écharde, il allait s'enorgueillir. Et Dieu a laissé cette écharde exprès. Et il dit, il faut que toi, tu apprennes à dépendre de ma grâce. Tu auras toujours cette écharde avec toi, parce que tu vas vivre avec la force que je te donne par la grâce que je te donne. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas la réponse attendue que ça remet en cause notre foi. Après, c'est à chacun de voir quel est son degré de foi. Est-ce qu'on est incrédule ou pas? Mais ne laissons pas Satan mettre dans notre esprit que si on n'a pas eu la réponse, c'est parce que nous avons manqué de foi. Je disais que ça dépend surtout de la volonté de Dieu. Parce que le texte nous dit dans Matthieu que Jésus dit « J'irai et je le guérirai ». L'intention du Seigneur Jésus, il savait, c'était de guérir ce serviteur. « J'irai et je le guérirai ». Et ça me fait penser à ça, c'est que la réponse de Dieu aussi peut se faire attendre. « J'irai et je le guérirai ». Donc c'est le futur. Dans combien de temps? Le temps qu'il arrive dans la maison? Non. Et dès qu'on lui dit, voilà, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison, ben, qu'il te soit fait selon ta foi, et le serviteur est guéri. Donc le temps, l'espace-temps, c'est Dieu qui est maître de cela. Il aurait pu dire, ok, ben, c'est fait, je le guéris. Non, j'irai et je le guérirai. Nous devons aussi accepter cela, que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Dieu parfois répond tout de suite, parfois il va nous dire non, on doit l'accepter aussi, ou c'est attends, pas maintenant, il faut encore, j'ai encore une œuvre, on ne sait pas de manière, mais Dieu demeure souverain. Et c'est sa volonté qui s'accomplit. Alors, comment prier? J'aimerais que nous lisions ce texte de Matthieu, Matthieu chapitre 8. Alors, juste les versets 2, on peut lire à partir du verset 1, Matthieu chapitre 8. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois pur. Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Voilà comment nous devons prier. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Donc, il y a la reconnaissance de la souveraineté du Seigneur. Seigneur, si tu le veux, mais il y a aussi la manifestation de la foi, tu peux me rendre pur. Et donc, lorsque nous prions, n'oublions pas que nous nous soumettons à la volonté de Dieu. Nous disons, Seigneur, si tu le veux, et nous lui manifestons aussi notre foi en lui disant, Seigneur, tu peux me rendre pur. Donc, à l'exemple de ce centenier, nous pouvons donc manifester notre amour envers notre prochain, qui peut être malade, donc de toutes sortes de maladies. Nous pouvons manifester cet amour en intercédant en sa faveur pour qu'il soit guéri. En le faisant, nous montrons à Dieu que nous avons foi en lui, nous avons foi en sa toute-puissance, et du haut de sa demeure, il peut apporter la guérison selon sa volonté, sans le concours d'aucune main. Il peut apporter la guérison, donc voilà, comme ça. Voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé, la personne est guérie. Ou bien il peut apporter la guérison par le biais des médecins. Nous allons voir le médecin, nous lui disons quel est le problème, et puis il nous donne des médicaments. Et puis voilà, le Seigneur agit d'une façon ou d'une autre. Parce que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, nous dit Jacques dans Jacques chapitre 1, verset 16. Dieu agit toujours selon sa volonté. Et même s'il ne répond pas tout de suite ou favorablement à notre prière en faveur donc d'une personne malade, cela ne veut pas dire que nous manquons forcément de foi. La réponse de Dieu à nos prières peut être oui ou bien non, ou bien attends, pas tout de suite. Voilà. Et donc nous avons donné l'exemple de l'apôtre Paul, je vous ai donné l'exemple de l'apôtre Paul, mais souvenons-nous de notre Seigneur Jésus lui-même. Il a pris sur lui nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies, comme il est dit dans Matthieu 8, verset 17. Et c'est le prophète Ésaïe qui l'a dit, cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Ésaïe 53, verset 4. Jésus, il a pris sur lui nos infirmités, il a pris sur lui nos maladies. Et à Gethsémané, avant donc son arrestation, il était là. Et il a demandé à ses disciples de venir et de prier avec lui. Et après, il s'est reculé, il s'est retrouvé tout seul, il s'est jeté par terre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Il a dit, Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Comment intercéder? C'est comme le Seigneur l'a fait. Il a pris sur lui nos infirmités et il a intercédé que cette coupe puisse s'éloigner de lui. Mais non pas ce que je veux, il a dit, mais ce que toi tu veux. Dieu n'a pas répondu favorablement à la demande du Seigneur, car il fallait que celui-ci passe par là. Il fallait qu'il porte la croix, il fallait qu'il soit crucifié pour que nous ayons la vie. Donc soumettons-nous à la sainte volonté de Dieu, tout en cherchant à progresser dans la foi, afin de voir de nos yeux sa puissance qui s'accomplit. Voilà, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous aide et que nous puissions continuer à grandir dans la foi, que nous puissions continuer à prier, et puis la volonté du Seigneur s'accomplira. Amen.